Aristote, Physique, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire, livre 7, suite de la théorie du mouvement. Chapitre 1er, sommaire. Tout mobile suppose nécessairement un moteur. Démonstration de ce principe. Tout mobile est nécessairement divisible. Démonstration de ce second principe. Paragraphe 1. Tout ce qui est mu doit nécessairement être mu par quelque chose. Paragraphe 2. Car si le mobile n'a pas en lui-même le principe de son mouvement, il est évident qu'il doit le recevoir d'un autre, et que c'est cet autre qui est le vrai moteur. Paragraphe 3. Examinons la première hypothèse où le mobile a le mouvement en lui-même. Soit AB, un objet qui se meut en soi, et non pas seulement en ce sens que c'est une simple partie de cet objet qui soit en mouvement. D'abord donc, supposez que AB se meut lui-même parce qu'il est mu tout entier et qu'il n'est mu par aucune cause extérieure. C'est absolument comme si KL, mettant LM en mouvement et étant mu lui-même, on allait nier que KM est mu par quelque chose, parce qu'on ne pourrait pas voir clairement lequel des deux corps est le moteur et lequel est le mobile. Paragraphe 4. De plus, quand un corps se meut par lui-même, et non par un autre. Il ne cessera pas nécessairement de se mouvoir parce qu'un autre corps viendrait à s'arrêter. Seulement, si un objet en mouvement s'arrête parce qu'un autre objet s'arrête également, il faut que ce premier objet soit mu par un autre. Ceci étant clairement démontré, il y a nécessité que tout ce qui est mu soit mu par quelque chose. Paragraphe 5. AB étant supposé un mobile en mouvement, il est nécessairement divisible, car nous avons vu que tout ce qui est mu est divisible aussi. Admettons qu'il est divisible en tant qu'il est C. BC n'étant pas mu, AB sera nécessairement sans mouvement comme lui, car s'il est supposé en mouvement, il est évident que AC serait mis en mouvement pendant que BC serait en repos. Donc, AB ne se meut pas par lui-même et primitivement. Mais on supposait d'abord qu'il se donnait son propre mouvement et qu'il se le donnait primitivement. Donc, il est nécessaire que, CB étant en repos, BA y soit de même. Paragraphe 6. Mais quand une chose s'arrête et cesse de se mouvoir parce qu'une autre n'est plus en mouvement, on convient que cette première chose est mue par une autre. Par conséquent, tout ce qui est mis en mouvement est mu nécessairement par quelque chose, car tout mobile est divisible, et quand la partie est en repos, le tout y est aussi. Paragraphe 7. Mais si tout mobile est mu nécessairement par quelque chose, et s'il faut également que tout ce qui est mu d'un mouvement dans l'espace soit mu par un autre mobile. Paragraphe 8. Alors, le moteur est mu par un autre mobile qui est mu lui-même, et cet autre encore est mu par un autre, et toujours ainsi de suite. Chapitre 2. Sommaire. Nécessité d'une première cause du mouvement. La série de transmission du mouvement ne peut être infinie. Démonstration fondée sur ce principe qu'il n'y a pas de mouvement infini dans un temps fini. Exception à ce principe. Autre démonstration. Paragraphe 1. Il faut bien cependant qu'il y ait quelques causes initiales et premières du mouvement, et l'on ne peut aller à l'infini. Paragraphe 2. Supposons en effet qu'il n'en est pas ainsi et que la série se prolonge à l'infini, soit A mu par B, B par C, C par D. Et supposons que toujours le mobile suivant soit poussé par le suivant. Paragraphe 3. Comme le moteur est supposé mouvoir, parce qu'il est mu lui-même, et que le mouvement du moteur et celui du mobile sont simultanés, car le moteur est mu lui-même en même temps que le mobile est mu par lui. Il est clair que le mouvement de A, celui de B, celui de C, et, en un mot, chacun des autres moteurs et mobiles sera simultané. Paragraphe 4. Nous pourrons donc prendre le mouvement de chacun d'eux et nous représenterons celui de A par E, celui de B par F et celui de C par D, par G, H, car si chacun d'eux est toujours mu réciproquement par chacun, on peut cependant considérer le mouvement de chacun d'eux comme étant un numériquement parlant. Et il n'est point infini à ses extrémités, puisque tout mouvement a lieu nécessairement d'un point à un autre point. Paragraphe 5. Quand je dis que le mouvement est un numériquement, j'entends que le mouvement va du même au même numériquement, dans un temps qui numériquement aussi est le même, car le mouvement peut être un et le même, soit en genre, soit en espèce, soit en nombre. Paragraphe 6. En genre, le mouvement est le même quand il a lieu dans la même catégorie, dans la substance par exemple, ou dans la qualité. Le mouvement est le même en espèce quand il va du même en espèce au même en espèce. Par exemple, il va du blanc au noir ou du bien au mal. Et il n'y a pas là de différence entre les espèces. Enfin, le mouvement est le même numériquement quand il va d'une chose numériquement à une autre chose, une numériquement dans le même temps. Et par exemple, de cette chose blanche à cette chose noire ou de ce lieu à cet autre lieu dans le même temps. Car si c'est dans un autre temps, le mouvement n'est plus un numériquement, quoiqu'il le soit encore en espèce. Mais nous avons donné ces explications plus haut. Paragraphe 7. Soit donc le temps dans lequel A fait son mouvement représenté par K. Le mouvement de A étant fini, le temps K sera fini aussi. Mais comme les moteurs et les mobiles sont infinis, il en résulte que le mouvement E, F, G, H, qui est composé de tous ces mouvements, sera infini lui aussi. En effet, il se peut que le mouvement de A, celui de B et celui de tous les autres soient égaux, et il se peut aussi que les mouvements des autres soient plus grands. Mais, qu'ils soient égaux ou plus grands, le mouvement total sera toujours infini dans les deux hypothèses, car nous ne supposons ici que le possible. Paragraphe 9. Or, comme le mouvement de A est simultané au mouvement des autres, il s'ensuit que le mouvement total aura lieu dans le même temps que le mouvement de A. Paragraphe 10. Mais le mouvement de A se passant dans un temps fini, il en résulterait qu'un mouvement infini se passerait dans un temps fini. Et c'est là une impossibilité. Paragraphe 11. Ce serait donc là, à ce qu'il semble, une manière de démontrer la question posée au début. Mais la démonstration n'est pas réellement faite parce qu'on n'a pas démontré qu'il y eut une impossibilité absolue. En effet, il se peut fort bien que dans un temps fini, il y ait un mouvement infini. Non pas, il est vrai, d'un seul corps, mais de plusieurs. Or, c'est précisément le cas que nous supposons ici, puisque chacun des corps que nous considérons peut se mouvoir du mouvement qui lui est propre. Et il n'est pas impossible que plusieurs corps se meuvent en même temps. Paragraphe 12. Mais il faut que le moteur primitif, qui donne le mouvement dans l'espace ou un mouvement corporel, touche au mobile ou y soit adhérent et contigu, ainsi que nous le voyons dans tous les cas. Il faut que les moteurs et les mobiles soient continus et se touchent réciproquement de manière à former tous ensemble un seul système. Peu importe pour le moment que ce système soit limité ou infini, car de toute façon, le mouvement de tous sera infini puisqu'ils sont infinis, quoique les mouvements de chacun d'eux puissent être égaux ou plus grands les uns par rapport aux autres. Mais ce qui est possible, nous le prendrons ici pour réel. Si donc le résultat des A, B, C, D est infini et qu'il est le mouvement E, F, G, H dans le temps K, ce temps étant fini, il s'ensuit que dans un temps fini, le fini ou l'infini parcourt l'infini. Mais l'une et l'autre supposition est également impossible. Paragraphe 13. Il est donc nécessaire qu'il y ait quelques points d'arrêt et que nécessairement il y ait aussi un premier moteur et un premier mobile. Paragraphe 14. Ceci, du reste, n'importe en rien que l'impossibilité ressorte d'une hypothèse, car la supposition a été prise possible. Et du moment qu'on a posé le possible pour point de départ, il ne se peut pas qu'il en sorte rien d'impossible. Chapitre 3. Sommaire. Le moteur et le mobile se touchent en un certain point et sont toujours dans le même lieu. Application de ce principe aux trois espèces de mouvements. Dans l'espace, en qualité et en quantité. Démonstration pour les diverses variétés du mouvement dans l'espace ou déplacement. Démonstration pour le mouvement dans la qualité ou altération. Démonstration pour le mouvement dans la quantité, accroissement ou décroissement. Paragraphe 1. Le moteur primitif, non pas le moteur en vue duquel se fait le mouvement, mais celui d'où part le mouvement, est dans le même lieu que l'objet qu'il meut. Et, par le même lieu, j'entends qu'il n'y a rien d'interposé entre eux. C'est là une condition commune à tout mobile et à tout moteur. Paragraphe 2. Or, comme il y a trois mouvements dans l'espace, dans la qualité et dans la quantité, il faut nécessairement qu'il y ait trois moteurs. L'un qui fait la translation dans l'espace, l'autre qui produit l'altération, et enfin le moteur qui produit l'accroissement et le dépérissement. Paragraphe 3. Parlons d'abord de la translation, puisqu'on peut la regarder comme le premier des mouvements. Paragraphe 4. Tout ce qui se déplace dans l'espace ou se meut par lui-même ou est mu par un autre. Paragraphe 5. Pour tous les corps qui se meuvent par eux-mêmes, il est de toute évidence que le mobile et le moteur sont dans le même lieu, puisque le moteur primitif réside dans ces corps mêmes et qu'il n'y a rien d'intermédiaire et d'interposé. Paragraphe 6. Quant aux corps qui sont mus par un autre, il n'y a que quatre cas possibles, car le déplacement qui se fait dans l'espace par une cause étrangère n'est que de quatre espèces: traction, impulsion, transport et rotation. Tous les déplacements dans l'espace peuvent se ramener à ces quatre-là. Ainsi, la compulsion n'est qu'une impulsion où le moteur qui agit de lui-même suit et accompagne la chose qu'il pousse, tandis que la répulsion est une impulsion où le moteur ne suit pas cette même chose. La projection a lieu lorsqu'on rend le mouvement imprimé à l'objet plus fort que ne le serait sa translation naturelle, et que l'objet est déplacé aussi longtemps que le mouvement existe et domine. La dilatation est une répulsion, car la répulsion a lieu soit loin du moteur lui-même, soit loin d'un autre. La contraction n'est qu'une traction, car c'est une traction de l'objet ou sur lui-même ou sur un autre. Il en est absolument de même pour toutes les espèces de ces mouvements, tels que l'extension ou le rétrécissement, la première n'étant qu'une dilatation et l'autre une contraction. De même encore pour toutes les autres concrétions et séparations. Elles ne sont toutes que des dilatations ou des contractions, en exceptant toutefois celles qui se rapportent à la génération et à la destruction des choses. On voit d'ailleurs en même temps que la concrétion et la séparation ne sont pas des genres de mouvements différents, car toutes peuvent se ramener à l'un des mouvements qui viennent d'être indiqués. À un autre point de vue, l'aspiration n'est qu'une traction et l'expiration n'est qu'impulsion. De même encore, l'expectoration et tous les autres mouvements par lesquels le corps rejette ou ingère quelque chose, car les uns sont des attractions et les autres des répulsions. En un mot, c'est ainsi qu'il faut réduire tous les autres mouvements qui se font dans l'espace, car tous peuvent se ramener aux quatre qui ont été énoncés plus haut. Paragraphe 7. On peut même encore, parmi ces mouvements, faire rentrer le transport et la rotation dans la traction et dans l'impulsion. Paragraphe 8. Ainsi, le transport ne peut avoir lieu que des trois manières suivantes. La chose transportable est mue accidentellement, ou parce qu'elle est dans une autre chose qui est mue, ou parce qu'elle est sur cette chose. Ce qui transporte peut transporter, ou parce qu'il est tiré, ou parce qu'il est poussé, ou parce qu'il tourne. Et voilà comment le transport est commun à ces trois mouvements. Paragraphe 9. Quant à la rotation, elle se compose de traction et d'impulsion. En effet, il faut nécessairement que le moteur qui fait tourner attire et pousse tout ensemble. L'une de ces actions éloigne l'objet de lui et l'autre l'y ramène. Paragraphe 10. Si donc ce qui pousse et ce qui tire est dans le même lieu que l'objet tiré ou poussé, il est évident qu'il ne peut y avoir rien d'interposé entre ce qui est mu dans l'espace et ce qui meut. D'ailleurs, cette vérité ressort des définitions mêmes. Ainsi, l'impulsion n'est que le mouvement partant du moteur même ou d'un autre pour aller vers un autre. L'attraction n'est pas autre chose que le mouvement partant d'un autre et allant vers soi ou vers un autre. Quand le mouvement de ce qui tire est plus rapide, en séparant les continus les uns des autres, car c'est ainsi que l'un est attiré avec l'autre. On peut, il est vrai, comprendre l'attraction encore d'une autre manière, car ce n'est pas ainsi que le bois attire le feu. Peu importe d'ailleurs que ce qui tire exerce sa traction, soit en étant en mouvement, soit en étant en repos, car alors il tire tantôt au lieu où il est lui-même, tantôt au lieu où il a précédemment été. Mais il est bien impossible de mouvoir un objet ou de soi vers un autre ou d'un autre vers soi sans toucher cet objet. Donc, encore cette fois, il est évident qu'entre le moteur et le mobile dans l'espace, il n'y a point d'intermédiaire possible. Paragraphe 11. Il ne peut pas y en avoir davantage entre l'objet altéré et l'objet altérant. C'est ce dont on peut se convaincre par l'observation et l'induction. Car, dans tous les cas, l'extrémité altérante et le premier altéré sont dans le même lieu. Paragraphe 12. Nous entendons en effet par altération qu'un objet ou s'échauffe ou s'adoucit ou s'épaissit ou se sèche ou se blanchit, etc. Nous appliquons également cette idée à ce qui est animé et à ce qui est inanimé. Dans les êtres animés, nous l'appliquons et aux parties qui restent insensibles et aux sens eux-mêmes. Les sens, en effet, changent et s'altèrent aussi à leur façon. La sensation en acte est, on peut dire, un mouvement qui se passe dans le corps quand le sens vient à éprouver une impression. Paragraphe 13. Dans les choses où l'inanimé est altéré, l'animé l'est aussi. Mais là où l'animé est altéré, l'inanimé ne l'est pas toujours sans exception, car il ne s'altère pas d'après des sensations éprouvées. Paragraphe 14. L'un a conscience de ce qu'il éprouve, l'autre n'en a pas conscience. Mais il se peut fort bien aussi que l'animé lui-même ignore ce qu'il sent quand l'altération n'a pas lieu à la suite de sensations. Paragraphe 15. Si donc ce qui s'altère est altéré par des causes sensibles, il est clair aussi que dans tous ces cas, l'extrémité dernière de ce qui altère se confond avec la première extrémité de ce qui est altéré. L'air, en effet, est continu à l'un et le corps est continu à l'air. De même, encore, la couleur est continue à la lumière et la lumière l'est à la vue. Même rapport pour l'ouïe et pour l'odorat. L'air est le moteur premier relativement à l'objet mu. Il en est de même aussi pour le goût, car la saveur est dans les mêmes lieux que le goût. Paragraphe 16. Ces phénomènes se passent de la même manière pour les objets inanimés et insensibles. Paragraphe 17. Il n'y a jamais d'intermédiaire entre l'altéré et l'altérant. Paragraphe 18. il n'y en a pas davantage entre ce qui est accru et ce qui accroît. Le primitif accroissant accroît la chose en s'y adjoignant, de manière à ce que le tout ne fasse qu'un. À l'inverse, ce qui dépérit va dépérissant parce qu'il se sépare quelque chose de l'objet qui dépérit. Donc, nécessairement, ce qui accroît ou ce qui détruit doit être continu et entre les continus, il n'y a point d'intermédiaire. Paragraphe 19. Ainsi, l'on voit clairement qu'entre le mobile et le moteur premier et dernier, relativement au mobile, il n'y a pas d'intermédiaire possible.